Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
De retour en compagnie de ma collègue Camille Cusset. Bonjour Camille, comment ça va?
Bonjour François, ça va très bien, merci.
Ça va bien, vous avez encore une fois fait vos valises, fait le tour du monde. Je regarde là tous les sujets avec lesquels vous nous revenez.
Mm-hmm. Oui, moi je suis allée loin là cette fois-ci.
Voilà, vous n'êtes pas souvent à la maison. façon de parler. Vous faites tout ça par le clavier, on le sait bien. D'abord, on va parler de quelque chose d'assez merveilleux qui se passe en Argentine.
Oui, tout à fait. En fait, je suis tombée sur un beau reportage qui a été diffusé sur France 24, donc qui est un média français. Il a été diffusé le 11 octobre et qui parle de la tangothérapie.
Oh.
Oui,
donc... quand on dit Argentine, on pense tango, hein?
Immédiatement, j'imagine qu'on pense aussi bonne nourriture, que je connais mal, j'avoue.
Ah, mais faut aimer le bœuf.
Ah, ok, bon à savoir. Ben, c'est le cas, fait que ça irait. Mais on pense, oui, vraiment à tango. Et là, c'était vraiment un reportage vidéo sur la tangothérapie, donc qui est vraiment reconnue et utilisée là-bas. Cette danse qui est donc originaire du pays, elle permet de briser la solitude, de faire travailler la motricité et notamment donc des personnes en situation de handicap physique ou mental, mais aussi des personnes isolées, des personnes âgées isolées. Oui. Donc là-bas, c'est utilisé dans ce sens-là. On appelle ça la tangothérapie. Et dans ce reportage, on suit Christiane Daniel Rosa, qui est un Argentin de 38 ans, vivant avec une déficience intellectuelle. Il suit les cours de tango dans le cadre de la tangothérapie. Et donc, on le voit donc se déplacer, danser, puis complètement oublier finalement sa condition.
Oublier les tracas du quotidien. Parce que
exactement.
C'est magnifique parce qu'à la fois, il y a l'aspect évidemment physique, du déplacement, mais
oui.
Il y a aussi tout l'aspect social, comme vous dites, l'accomplissement, la réalisation de soi,
voilà.
Le fait de faire quelque chose que tous les Argentins ou Argentines font,
oui.
Ou presque, on peut le penser.
Dans un cadre de thérapie, excusez-moi de vous couper, mais ça permet de développer aussi comment dirais-je, par exemple au niveau de la mobilité,
oui.
Ça aide beaucoup l'équilibre.
Oui. On sait que chez des personnes qui avancent en âge, le fait de pratiquer la danse, je dirais, stimule des rapports nerveux entre l'audition, le mouvement, la mémoire du corps, tout ça. Mais moi, ce qui m'a surtout frappé dans ce reportage-là, c'est que et ce n'est pas qu'un centre à Buenos Aires là, qui fait de la tangothérapie. C'est universel.
Exactement.
Tout le monde en Argentine a accès à ce genre de thérapie. C'est
exactement,
ça qui est beau.
Exactement, tout à fait. Puis d'ailleurs, c'est tellement répandu qu'il y a une académie, carrément, une académie argentine de tangothérapie. Donc, elle est dans le nord du pays, pas partout. Mais là-bas, ils forment toutes les personnes, tous les Argentins et toutes les Argentines qui veulent devenir des tangothérapeutes. Donc, c'est assez... par exemple, il y avait le témoignage d'une infirmière qui disait qu'elle croit non seulement au bienfait du tango, pour le bien-être personnel et que ça peut apporter donc beaucoup de choses au niveau thérapeutique.
Oui.
C'était notamment, elle donnait un exemple d'un petit garçon de 8 ans. Donc c'est ouvert à tout le monde, hein. C'est vraiment
oui,
de tous les âges. On peut aller danser avec Pépé, avec Mémé, on se fait plaisir. C'est très ouvert. Et cet enfant de 8 ans donc n'arrivait pas à compter en raison d'une de ses conditions. Et grâce à ça, il a appris à compter au moins jusqu'à 8.
Ah, compter les pas.
Exactement, grâce aux pas.
C'est ça,
donc c'est
bien,
vraiment
ça.
Pas mal.
Ah, ben ça, c'est... En tout cas, j'ai trouvé ça très sympathique. Ça, c'est sur France 24.
Tout à fait.
Un peu toujours dans la même... je dirais la même idée, latine, mais plus au nord, on s'en va à Cuba.
On s'en va à Cuba. Au Cuba, donc, a fait un grand saut et a approuvé le mariage gay. Donc, les Cubains et les Cubaines ont approuvé à plus de 66% par référendum un nouveau code de la famille qui légalise donc le mariage des couples de même sexe, la gestation pour autrui et aussi la filiation élargie.
Oui.
Donc
il y a souvent des familles où il y a trois générations à la maison.
Exactement.
Et c'est dans le cadre d'une réforme du droit de la famille.
Oui.
Qui est plus large aussi, parce que je pense que ça, c'est comme vous dites, ça renforce ou ça reconnaît
le droit
le mariage,
au mariage,
gay,
oui.
Mais aussi l'adoption homoparentale, Les droits des enfants, des personnes en situation de handicap, là, c'est vraiment, ça met Cuba à l'avant-scène.
Exactement.
En Amérique latine, dans le cadre des droits pour des personnes souvent exclues ou marginalisées.
Tout à fait, ben, c'est exactement ça. Puis donc, au niveau des personnes qui vivent, des personnes marginalisées, disons ça simplement comme ça, il renforce le droit des enfants, des personnes âgées et aussi, oui, des personnes en situation de handicap. Alors, ce qui est intéressant, donc ça s'est passé le 25 septembre dernier. Ça a été largement soutenu par le gouvernement communiste. Mmh. Et le vote en faveur du oui, donc, a fait l'objet d'une grande campagne, autant dans la rue qu'à la télévision. Donc, ça a été vraiment poussé de l'avant, autant par le gouvernement, mais aussi par les médias. Donc, c'est vraiment un gros pas pour Cuba.
Et c'est intéressant de voir le déroulement, l'évolution de l'histoire, parce que ce qui était le code de la famille précédent, qui commençait à être vraiment, qui était en fait contraignant, là, avec beaucoup de restrictions et d'exclusions, avait été mis de l'avant au début du régime communiste, dans les années 70.
Exactement.
Et là, finalement, c'est comme une sorte d'adaptation du régime à la vie d'aujourd'hui et à des réalités qui avaient été dans le passé.
Laissées de côté, bah oui, tout à fait. Hein. C'était, on peut vraiment parler de discrimination.
Exact.
Avant, dans l'ancien code.
Qui avait été systématisé, tout à fait.
Exactement. Donc oui, c'est une façon de faire amende honorable. Et puis le texte, c'est l'un des textes qui est maintenant les plus progressistes en Amérique latine. Donc si on considère Cuba comme faisant partie de l'Amérique latine.
Oui.
Donc c'est ça, avec un pays de 11,2 millions d'habitants et d'habitantes, c'est un gros... pas en avant, malgré une crise économique quand même qui frappe
beaucoup.
Oui,
tout à fait. Oui, c'est pas super là-bas. On va rester en Amérique latine, puis là, on s'en va en Amazonie.
Oui. Hein,
rencontrer un aventurier et son compagnon.
Oui, alors ça, c'est une aventure vraiment. J'ai adoré lire cette histoire parce que même moi, ça me donne envie. En fait, l'aventurier Arnaud Chasséry, donc lui, il parcourt le globe en quête de découvertes et de sensations extrêmes. Ça, c'est pour vous mettre un petit peu en contexte. Mm-hmm. Thomas, âgé de 27 ans, lui, il est atteint d'une maladie rare et il a réalisé son rêve donc d'entrer en immersion dans une tribu tanzanienne, donc en Tanzanie.
Ah, c'est en Tanzanie. Ah, je pensais que c'était en Amazonie.
Ben,
ah, c'est mon erreur, voilà.
Non, c'est bien correct parce que en fait, le projet, donc qui est Handicap Sûr, vise après l'Amazonie. Donc c'est peut-être ça l'amalgame qui a
voilà,
eu, mais
c'est
après
moi qui lis en diagonale, c'est ma faute, voilà. Alors, on est en Tanzanie, donc on est en Afrique de l'Est.
Exactement, okay. Oui. Et donc là, c'est Arnaud Chasséry, donc qui a mené ce programme grâce au programme Handicap Sûr.
Handicap, c'est H-A-N-D-I.
Voilà.
Apostrophe cap comme cap sur l'aventure.
Voilà, exactement. Donc en fait, c'est vraiment pour pousser hors des sentiers battus. Et Thomas, donc, il est parti en Tanzanie pour faire cette expédition. Donc il a pu vraiment faire une immersion au cœur de la jungle. C'était une aventure salvatrice pour lui, donc qui est malvoyant et malentendant.
Oh.
Donc oui, et dans l'article, ils le décrivent comme un jeune homme pas très costaud, mais qui a pu, dépasser ça, et puis qui s'est trouvé en fait, qui s'est découvert, donc c'est assez intéressant. Tout le monde peut participer à ce programme handicap, c'est ce que j'ai trouvé vraiment intéressant. Il suffit juste de postuler sur le site de l'association Allopias. Le seul impératif, bien évidemment, c'est d'être en situation de handicap, et d'être surmotivé, parce que c'est demandant.
C'est sûr, parce qu'on sort vraiment, on s'en va dans des milieux qui sont vraiment pas du tout adaptés.
Mais non.
Il faut comprendre. Et qui même adaptés sont, entre guillemets, hostiles à la vie de gens qui vivent dans des sociétés développé d'Occident. Là,
exactement.
On parle pas de
on risque de croiser un guépard à chaque coin
de métro. Là. on est dans la jungle. C'est du camping de première classe. Là. Alors, il faut faire attention. C'est difficile. Et ça demande beaucoup d'avoir un esprit très ouvert parce qu'on rencontre toutes sortes de nouvelles cultures.
Voilà, exactement.
Il faut accueillir ces gens-là autant que nous les accueillons. Alors, C'est... Alors, c'est sur quel site, vous dites?
Ça, c'est sur le site Allopias, donc pour s'inscrire et pour voir le reportage, vous pouvez aller sur handicap.fr, donc là, sans le apostrophe.
Bon, parfait. Bah oui, parce que peut-être qu'il y a un ou une aventurière parmi nous qui va prendre l'occasion aux cheveux, comme on dit. Mais aussi, c'est une belle histoire. Je voudrais parler également d'un article que notre collègue Philippe Lapointe nous a suggéré. Article qui vient du Monde diplomatique, édition du début d'octobre, et qui y fait référence, en fait, à une commission des défenses des droits en France qui a déterminé qu'en 2022, pour une cinquième année d'affilée, le handicap est la principale raison, le principal motif d'exclusion. Mm-hmm. Et en lisant les chiffres de cet article-là, je me disais, c'est même deux pays différents, Canada, Québec, France, c'est les mêmes choses. C'est terrible. En 2022, la France compte près de 12 millions de personnes en situation de handicap. C'est 17,8% de la population. C'est très semblable à ce qu'on vit ici, là, selon les définitions. Et rien en dehors de ces discriminations. Tout est pareil. Les personnes handicapées sont surreprésentées parmi les gens qui n'ont pas de diplôme. 29 contre 13. Deux fois plus de chômage chez les personnes en situation de handicap. 15 contre 8 de chômage dans la population en général. Ils ont 3 sur 10 vivent sous le seuil de la pauvreté. Deux fois plus nombreux ou nombreuses à être isolés, à vivre seuls. Alors, selon le rapport annuel du Défenseur des droits publics, le handicap constituait le premier motif de discrimination pour la cinquième année d'affilée.
Oui, ça, c'était vraiment choquant.
C'est dur. Mais cet article-là du Monde diplomatique, je vous le recommande parce qu'il est évidemment... Le Monde diplomatique, c'est toujours super bien écrit. Et en plus, c'est vraiment... Ça dresse un portrait très, très juste et très... éclairant de la situation du handicap en France, et on s'aperçoit combien cette réalité-là est assez semblable à la nôtre, là, l'institutionnalisation, la médicalisation, c'est très semblable. Alors,
c'est ça, puis
ça
les dilemmes, excusez-moi de...
Allez-y!
Les dilemmes aussi du milieu associatif.
Oui.
On se demande, est-ce qu'il faut... continuer avec les mêmes structures actuelles, toute la discrimination structurelle en fait, est-ce qu'on change tout, comment tout changer, comment financer, c'est très bien expliqué cet article.
De savoir faut-il tout foutre en l'air et recommencer dans un mode beaucoup plus soin à la maison.
Vous le dites bien mieux. Hein? Vous le dites bien mieux que moi.
en fait, c'est ça. C'est vraiment intéressant. Puis on voit aussi l'éclatement des structures,
oui.
Des associations, des groupes communautaires. Et on s'aperçoit que le combat des personnes en situation de handicap, là, c'est vraiment universel. On collerait l'adresse ici sur l'article, là, puis on aurait l'impression de dire la même chose. Tout à fait. Voilà. C'est un très bel article. Merci Philippe de nous l'avoir transmis. Et on va passer maintenant aux choses plus légères et plus agréables pour l'esprit. On va parler culture dans un moment. De retour avec ma collègue Camille Cusset. On va faire maintenant on défait les valises, hein, on pose les valises à terre.
On revient
à Montréal, on revient au Québec. Alors, qu'est-ce qui se passe par chez nous?
Alors, pour vous, j'ai la Fondation Douglas, donc qui a lancé l'édition 2022 du mouvement Bâtissons l'espoir, qui est donc une initiative de visibilité provinciale pour soutenir la recherche de pointe et les soins aux patients de l'Institut universitaire en santé mentale, donc l'Institut Douglas.
Qui est à Verdun, si ma mémoire est bonne. Oui, tout à fait.
Donc, l'article dont j'ai issu cette information-là s'appelle « Quand parler de maladie mentale ne suffit pas ». Donc, vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'Institut Douglas, mais c'est centré, en fait, sur le témoignage de Magali qui souffre d'un trouble de la personnalité limite. Et cette campagne, donc la campagne « Bâtissons l'espoir », encourage la population à agir aux enjeux de la maladie mentale en faisant un don à l'organisme, en fait, ou alors en partageant tous les contenus disponibles sur leur plateforme sociale durant le mois d'octobre.
Moi, ce qui me frappe, c'est que et c'est comme un drôle d'effet qui n'était peut-être pas prévu. La pandémie et le cloisonnement et tout ce que ça nous a fait collectivement vivre, il me semble qu'on parle beaucoup plus de santé mentale maintenant que l'on en parlait avant la pandémie.
C'est flagrant.
Pourtant, on parle d'un virus qui s'attaque au corps, mais toutes les conséquences sur la santé mentale que ça a eues, fait que maintenant, c'est un enjeu important, d'autant plus que pendant la pandémie, les services pour la santé mentale ont été, mettons, négligés, là. Ça n'a pas aidé beaucoup. Il y avait plus de besoins, puis moins de d'offres de soutien. Et là, maintenant, on en parle beaucoup. Et ça, moi, ça peut paraître curieux que je dise ça comme ça, mais je trouve que c'est une bonne chose. Ça a obligé tout le monde à mettre la santé mentale à l'avant-scène, puis d'en parler, puis de se sentir à l'aise de parler de ce qui nous arrive à chacun de nous. Mm-hmm. Puis on espère évidemment que d'un point de vue institutionnel, on puisse aussi, gouvernemental et soutien de proximité, on puisse aider les gens qui en ont besoin. Mais ça me semble être une conséquence qu'on n'avait pas envisagée au début de la pandémie, il y a 3 ans.
Puis on peut le comprendre, hein, parce que c'était quand même un gros bout à gérer pour le gouvernement, ce qui s'est passé. Personne ne pouvait prévoir l'ampleur de la chose. Puis, on va dire, les dommages collatéraux, ça a été la santé mentale.
Tout à fait, tout à fait.
Puis, je suis bien d'accord avec vous.
On parle... Et c'est très bien qu'on en parle. Il y a des campagnes de sensibilisation qui ont lieu, ainsi de suite. Alors, ce que fait l'hôpital, la Fondation Douglas, de l'Institut universitaire de santé mentale Douglas, ben ça, c'est très bien. Ça va dans ce sens-là.
Puis voilà. elle est supportée par les institutions financières, par exemple le mouvement Desjardins. Il se joint à cette campagne-là, puis il remettra un montant équivalent pour tous les dons qui seront effectués à la Fondation d'ici le 31 octobre. Alors ça, je ne l'ai pas dit, mais le mouvement, donc Bâtissons l'espoir, il se tiendra du 10 au 31 octobre 2022.
Bon, ben c'est maintenant.
Oui, c'est
voilà.
Ça, c'est maintenant.
Tout à fait, exact.
Et il est possible de se joindre à la campagne en faisant un don sur le site web de la Fondation Douglas. Hein, maintenant, c'est comme ça que ça se passe.
Oui.
Les dons, c'est en ligne.
C'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. Là.
Mais oui, bah oui.
Moi, j'ai mis une lettre à la poste avec un timbre la semaine dernière. Et pour moi, c'est tout un événement. Là.
Ah bah oui!
Voilà. Dans le journal des affaires, que l'on associe peut-être pas toujours à des situations d'handicap, il y avait un reportage.
Oui, un très beau reportage d'ailleurs. Comment démanteler les barrières de la langue, un signe à la fois. Donc en fait, Cynthia Benoît, PDG, mais... Respectons le terme, voilà, la directrice générale et aussi présidente d'une entreprise qui s'appelle Service Linguistique CB. Donc, qu'est-ce que fait cette entreprise? En fait, elle offre des services, des cours de langue des signes québécoise, donc la LSQ pour les connaisseurs, un système aussi d'évaluation des compétences en langue québécoise, en plus un service de recherche et de développement et de consultation qui comprennent des études de faisabilité. Et tout ça, c'est à l'intention des entreprises donc qui auraient le désir d'inclure davantage de personnes sourdes ou malentendantes.
Dans leur emploi, là.
Oui.
J'ai lu l'article. On ne disait pas si Mme Benoît était elle-même sourde ou malentendante, mais en fait, c'est pas vraiment important parce qu'on va arrêter de caractériser les gens ou les décrire par leur handicap. On va simplement les décrire par les bonnes choses qu'ils font.
Très bonne
dans la vie,
initiative.
Hein? Voilà. mais on peut penser que Service Linguistique CB, c'est ses initiales à elle. Alors, c'est son initiative.
Mm-hmm.
Et oui, ça va permettre d'exploiter et de valoriser les talents des gens sourds ou malentendants parce que souvent, les personnes sourdes ou malentendantes vont se retrouver coincées dans des emplois qui vraiment sous-utilisent leur capacité. Là. Ils sont vraiment
bloqués. C'est exactement ça. Et moi, c'est ce qui m'a assez interpellée, en fait, dans ce reportage, parce qu'elle expliquait que souvent, ce sont des personnes donc surqualifiées et elles se retrouvent à occuper des postes qui ne sont pas du tout compatibles avec leurs compétences ou avec leurs talents ou leurs ambitions. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus du bien-être aussi au travail. Donc, il faut aussi inclure tout le monde, en fait, dans cette initiative-là et donc s'intéresser à ce que les gens veulent faire et veulent réaliser sur leur lieu de travail. Tout le monde. Et donc, on parlait de ça. Et elle expliquait que Elle rencontre. Donc tout ça, c'est une entrevue, hein, pour vous préciser. En fait, c'est une entrevue avec Cynthia Benoît qui donne son point de vue. Et elle dit que les personnes, donc, rencontrent de nombreuses barrières sur le marché du travail, notamment en matière de promotion et d'occasion. Donc c'est de l'injustice, en fait, quand on y pense bien.
Bah, c'est une... voilà, c'est une autre exclusion, là. C'est pas autre chose. Mmh. Et donc, elle, son entreprise qui s'adresse à des entrepreneurs, qui s'adresse à des employeurs, voilà, pour permettre à faciliter l'intégration dans le milieu du travail de personnes qui sont sourdes ou malentendantes. Et ça peut être, on parle de personnes malentendantes ou sourdes aveugles ou oralistes ou qui ont des pertes de l'ouïe, ça correspond à presque 10% de la population.
Exactement.
Alors, c'est une, encore une fois, c'est un bassin de ressources et de compétences là, qui est sous-utilisé. Alors, comme vous le dites, l'entreprise de Mme Benoît offre des cours de langue des signes.
Exactement. Hein,
ça, c'est la première chose. Ça, c'est vraiment basique. Et des systèmes d'évaluation de compétences aussi.
Exactement.
Parce que si quelqu'un dit oui, je m'y connais, puis la personne dans l'entreprise qui l'interview ne connaît pas la langue des signes, comment savoir si cette personne-là s'y connaît ou non?
Hein? Exactement.
Voilà. Ça peut paraître bête, mais il faut être capable d'évaluer les compétences d'une personne, surtout rendu au moment de l'accueil, ça va faire...
toute la différence.
Oui, voilà. des services de recherche, de développement et de consultation.
Ça, c'est très intéressant.
Ça, c'est important, qui va permettre de faire des études de faisabilité.
Mm-hmm. Et donner un exemple. Par exemple, ils ont travaillé en collaboration avec Radio-Canada sur un projet en lien avec les contenus en langue des signes. Donc, c'est vraiment, si ça va même à ce niveau-là, je trouve ça très intéressant aussi.
Ben, et donc, c'est au-delà de l'emploi, parce que là, on parle vraiment de l'accessibilité universelle et des services de traduction. Alors, ça aussi, c'est important au moment qu'il y a des communications anglais, français, LSQ ou langue des signes américaine, parce que toutes les langues des signes ne sont pas la même. Ça, c'est une autre mythe, là. La langue des signes ici, puis quelqu'un qui... utilise la langue des signes britannique, là, c'est pas les mêmes.
Okay.
C'est pas pareil.
J'apprends quelque
chose. Il y a des distinctions, là. Je dirais qu'il n'y a pas qu'une langue des signes dans le monde. Il y en a plusieurs qui reflètent des différences culturelles, ainsi de suite. Alors, tout ça, donc, on parlait de Mme Cynthia Benoît et de son entreprise. Service
linguistique CB.
Voilà.
Oui, tout à fait.
Exact. Il y a des gens doués au Québec, des jeunes enfants, des jeunes adultes qui sont doués. Malheureusement, ils décrochent.
Et oui. En fait, entre 18%, donc ça, c'est Science Presse qui nous apprend ça, entre 18% et 25% des élèves doués ne parviennent pas à obtenir de diplôme d'études secondaires. Donc, il y a un groupe de chercheurs à Montréal qui se propose de donner des solutions, notamment l'utilisation de l'outil Banco pour favoriser la collaboration et la facilité pour échanger les informations, en fait, concernant les besoins des enfants doués. Parce que tout est là, en fait, c'est que leurs besoins ne sont pas identifiés clairement, que ce soit dans la famille, à l'école ou dans l'environnement, en fait, de l'enfant. Et ça pousse, malheureusement, au décrochage scolaire parce que le QI, c'est souvent accompagné de certains problèmes, de troubles de l'apprentissage et de la dyslexie.
Oui, et c'est terrible parce que le taux de décrochage scolaire chez les enfants doués, c'est trois fois plus que sur la moyenne de la population générale.
C'est
vraiment un gaspillage humain qui est un gaspillage.
De matière
grise. Je
ne
veux pas avoir d'avoir un point de vue d'un économiste utilitaire, mais c'est terrible, c'est malheureux qu'on se retrouve dans une telle dans une telle situation. Je dirais qu'en général, dans la société, il y a un certain discours où on valorise la bêtise, quand les gens sont intellectuels, scientifiques. Où on a un discours qui est articulé, on les escamote parce que c'est plus populaire parfois d'être
populaire,
simpliste.
Justement.
Oui, voilà, mais là, je ne veux pas rentrer là-dedans. Il y a des gens qui vont me taper dessus. pour terminer, hein, la pièce Le Fils qui est au Rideau Vert, on annonce 3 supplémentaires. On en parle parce que c'est accessible?
Exactement, oui, c'est accessible. Et donc, vous avez le 3 et le 4 novembre, donc les supplémentaires à 19h30, ainsi que le 5 novembre à 16h30. Donc, si vous ne l'avez pas vu, précipitez-vous, les billets sont en vente en ligne.
Parfait. Et là-dedans, il y a Guillaume, il y a Vincent Guillaume Autiste, hein? Tout le monde se rappellera qui faisait le pas de Bissonnette dans District 31. On a l'air de le revoir sur scène. Merci, Mathieu Tessier. Merci, Claire Guérin à la recherche. Et Camille Cusset, agente de voyage. Voilà. À la semaine prochaine.